à voix nue. Cette semaine, Gérard Courtois rencontre Jean-Pierre Chevènement. Ce soir, d'une turbulence, l'autre.
Jean-Pierre Chevènement, bonjour. Nous nous sommes quittés hier, au lendemain de votre démission du gouvernement Jospin. Cette fois-ci, la rupture est vraiment consommée et vous en faites la démonstration en septembre 2001 en annonçant votre candidature à l'élection présidentielle de 2002. Pourquoi vous lancez-vous dans cette aventure ?
Mais vous savez, les choses ne se passent pas aussi simplement. Parce que d'abord, il faut que je me fasse réélire député, ma suppléante démissionne, comme elle l'a déjà fait, Gilberte Marin-Moscovitz, et par conséquent, je suis réélu député du territoire de Belfort. Je m'oppose au projet de loi sur la Corse, qui est voté par la droite et la gauche, mais qui sera censuré par le Conseil constitutionnel sur l'aspect délégation du pouvoir législatif. Je me fais élire à nouveau maire de Belfort en mars 2001. Donc tout ça m'occupe quand même beaucoup. Je me méfie un petit peu des sondages et de mes amis aussi qui me poussent à être candidat à l'élection présidentielle parce que je sais d'expérience que entre ce que vous donnent les sondages et ce que vous donnent ensuite les urnes, c'est pas tout à fait la même chose. J'hésite, mais en même temps, la question que je me pose, c'est est-ce que je peux terminer comme ça dans une espèce de retraite pas très glorieuse, ou est-ce qu'il vaut mieux mourir en combattant ? C'est ce que je dis à ma femme, qui n'est pas pour. Elle m'a dit, tu ne devrais pas y aller. Mais...
Un point d'histoire à ce moment-là, au printemps 2001, Lionel Jospin pratiquement vous invite ou vous incite à vous présenter, me semble-t-il. En tout cas, ne vous en dissuade pas du tout. Il vous dit que ce serait normal.
Il ne cherche pas à m'en dissuader, il me pose la question. Je lui dis que je suis encore incertain, c'est probablement vers mars-avril.
Oui.
Je suis encore incertain, parce que j'hésite réellement. D'abord, c'est quand même difficile. Et je sens qu'au fond, il ne croit pas beaucoup en mes chances. Pas plus que je ne crois aux siennes, d'ailleurs. Mais il me donne, d'après l'un de ses conseillers, 2 à 3% le score que j'avais fait aux européennes.
Mais donc, au fond, il vous utiliserait bien comme un appoint pour le second tour dans sa projection.
Oui, c'est comme ça que probablement il raisonnait, d'ailleurs. Moi-même, si j'étais candidat, je pouvais l'être de deux manières. Parce que je faisais un score assez élevé, au-dessus de 5%, mais je devenais une composante à part entière de la gauche plurielle, par rapport aux Verts et aux communistes. Et c'est ce qui s'est passé, je suis venu en tête de tous les autres candidats. Ou bien je franchissais la barre des 10, et les deux candidats institutionnels dont l'opinion s'était lassée, parce que finalement, l'histoire de la Ve République, c'est ça. C'est la montée du dégagisme. Et ces deux candidats tombent en dessous de 20%, ce qui va se passer d'ailleurs.
Et si moi, deux candidats qui sont, juste pour le rappeler, l'un président de la République et l'autre Premier ministre, cohabitant.
C'est vrai. Mais néanmoins, je sens qu'ils sont fragiles et qu'ils vont tomber en dessous de 20.
D'ailleurs, votre entrée en campagne se fait sur ce projet-là, de bousculer le système, de le faire turbuler, comme vous avez dit à l'époque, et de vous situer au-dessus des partis.
Je n'y crois pas tellement, enfin, je ne pense pas à la possibilité que j'aurai d'être dans le ticket du deuxième tour, enfin, au départ. Mais il vaut mieux se présenter comme ça, si on veut convaincre, il vaut mieux avoir l'air d'être convaincu qu'on peut aller au deuxième tour. Sinon, il vaut mieux pas se présenter. Donc je fais prévaloir cette vision des choses, et à un moment d'ailleurs, les sondages me donnent 14%. Mm-hmm. Donc je suis en passe de réussir cela.
Ouais. Mais au mois de décembre, monsieur.
Non, plus tard, février.
Février.
Mi-février. Mi-février, c'est-à-dire pas très longtemps avant le premier tour qui est 21 avril.
Mais au moment où les deux candidats principaux, Chirac et Jospin,
vont entrer en campagne. Alors les deux candidats principaux vont entrer en campagne, toutes les caméras se braquent sur eux et se détournent de moi. Et puis en même temps, 16 candidats sont dans la course. Un record, on n'a jamais vu ça. On était à 9 la fois précédente. Mais chaque candidat grappille un demi-point. Et par conséquent, mon score baisse, je ne suis plus à 14.
Je reviens un cran en arrière sur l'engouement qu'a suscité votre candidature. Engouement un peu tous azimuts.
Oui, parce que derrière mon discours de Vincennes, qui est le discours fondateur,
en septembre 2001,
je dis la chose suivante, au-dessus de la droite, au-dessus de la gauche, il y a la République. Et une conception exigeante de la République que je vais développer tout au long de ma campagne en matière d'éducation, de sécurité, de critique du capitalisme financier, de la théorie de l'acquisition de la valeur maximale par l'actionnaire, du capitalisme patrimonial dont parle à la main, que des inégalités que cela génère. Je développe une ligne de politique étrangère néo-gaulliste, en tout cas pas du tout néo-con.
Et néo-conservatrice.
Néo-conservatrice. Et au total, je présente quand même un programme articulé, alternatif. Au-delà de la mise en turbulence du système, il y a la proposition d'une véritable alternative aux politiques néolibérales faites aussi bien par la droite que par la gauche. C'est pour ça que j'incrimine la politique du pareil au même.
En même temps, c'était, si je puis dire, une troupe très disparate, non ?
C'était très disparate. Alors, il fallait les mobiliser avec la vitesse. Donc, je devais faire beaucoup de meetings. J'en ai fait 66. Je peux vous dire que c'est dur. Hein. 66 meetings, et puis j'avais des gens enthousiastes, beaucoup de petites mains auxquelles je resterai toujours reconnaissant de ce qu'elles ont fait pour moi. Et puis des vieux briscards, je pense à Pierre Lefranc, qui était le chef de cabinet du général de Gaulle, Floïc, l'amiral, qui était son aide de camp, des gens qui étaient avec moi, qui faisaient des discours. C'était vraiment flamboyant. Et puis des communistes pour lesquels j'avais beaucoup de respect, Anicet Le Porce, Rémi Auchedet, Zuccarelli, chez les radicaux.
Chez les radicaux.
Chez les socialistes, Jean-Marie Cambacérès et quelques autres. Donc j'avais quand même une pléiade de gens très divers, donc je sentais qu'il y avait une force. Et moi,
mais cette force n'était pas suffisante face aux deux grands partis, en réalité.
Il y a eu à peu près 30 000 adhérents des comités de soutien, que je ne connais pas par définition, mais parmi lesquels vous trouvez toute la jeune génération politique. C'était une nouvelle génération, que j'appelais la génération République. Je n'avais pas d'argent.
Y compris Emmanuel Macron.
Qui a fait un passage, en effet, et qui en a gardé quelque chose. D'ailleurs, l'idée de la mise en turbulence du système, je pense que elle vient de là. Mais il a compris beaucoup de choses. Et Emmanuel Macron, il n'a pas besoin qu'on lui apprenne beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Il est assez
intelligent.
Hein. Donc, et puis il y en avait d'autres. Alors on incrimine toujours Florian Philippot. Je dis toujours je ne l'ai pas rencontré, mais en même temps je ne veux pas lui casser du sucre parce qu'il m'a rejoint. Je trouve que bon, il a échoué dans son entreprise qui consistait à orienter le Front National autrement que selon le mode Marion Maréchal Le Pen. Bon, et puis il y en a eu d'autres, très nombreux, que je retrouve de plus en plus d'ailleurs, car très souvent, les gens traversent la rue et me disent « Vous savez, j'ai voté pour vous en 2002. » Il y en a beaucoup plus aujourd'hui.
Toujours est-il que dans cette érosion finalement de février, mars, avril, mais vous vous retrouvez à 5%, 5,3%, passer la barre 5, des...
5,4,
pardon.
1,540,000 voix.
Bien. Et bon, évidemment, ce score est très décevant, mais il va peser lourd sur la suite, puisque il va contribuer.
J'ai oublié de vous dire que je n'avais pas d'argent, que je me suis endetté sur mes fonds personnels. Si je n'avais pas fait 5%, j'étais endetté pour tout le reste de ma vie.
Vous étiez ruiné.
J'étais ruiné.
Oui. Donc les 5,4%...
Mais je croyais très fort que je ferais plus.
Et en même temps, cette multiplication des candidats, et donc ça n'est pas votre seul score à vous, mais aussi celui de Madame Taubira, celui de la candidate de Marie-Georges Buffet, qui était la candidate du Parti communiste, il y avait une candidature écologiste, etc. Le résultat, c'est que Lionel Jospin est écarté du second tour.
Non mais le résultat, excusez-moi, parce que ce procès m'a été fait, mais il est...
Je ne vous le fais pas.
Il est de toute façon très injuste et faux, car il a manqué un peu plus de 100 000 voix à Lionel Jospin pour rattraper Jean-Marie Le Pen, et il y a eu 13 millions d'abstentions. 13 millions. Alors, il ne faut pas calculer en pourcentage. Bien sûr, Mme Taubira a fait quelque chose comme 700 000 voix. 600, 700, moi, j'en ai fait 1 500 000 et quelques mille. Ma mère en a fait 1 200 000. Bon, tout ça, ça a peut-être manqué. Mais si Lionel Jospin n'avait pas inversé l'ordre des élections, il nous aurait mis dans une situation où on était obligé de coller quand même plus ou moins au Parti Socialiste. Et par conséquent, à ce moment-là, les choses se seraient passées très différemment. Mais il est à l'origine de cette inversion du calendrier électoral. Excusez-moi de le rappeler. Et je pense qu'il devrait s'interroger sur le fait de savoir si, effectivement, il n'aurait pas pu donner un nouvel élan à, je dirais, à sa campagne, et peut-être même à la deuxième partie de son quinquennat. C'est ce qui a été l'occasion que nous avons ratée ensemble à mon retour du Val-de-Grâce. Je pense que à ce moment-là, il y a quelque chose qui aurait peut-être été possible. Mais nous avons été rattrapés par l'arrivée des échéances électorales, puis le fait que les vieilles questions, l'Europe, la politique économique, tout cela revenait, et que Lionel Jospin a quand même penché à chaque fois du mauvais côté.
Et puis le sentiment qu'il avait, qui n'était pas infondé, que son bilan de politique économique était bon, que le chômage avait baissé très fortement pendant ces quatre années, cinq années de gouvernement Jospin, que la situation était encourageante. Enfin, il comptait beaucoup là-dessus.
Mais en fait, il est certain que la France se portait mieux en 2002 qu'elle ne se porte aujourd'hui.
Et qu'elle ne se portait en 97.
Il faut dire, sans vouloir diminuer les qualités techniques de Lionel Jospin, que la conjoncture mondiale s'était renversée en 2000, qu'en 2001, le chômage avait recommencé d'augmenter à partir d'avril 2001, et lui-même donnait le sentiment d'avoir un peu lâché la bride. L'État ne peut pas tout, etc. C'est vrai jusqu'à un certain point, mais ça ne se dit pas comme ça. Et puis on prend les moyens que l'État puisse quand même conserver barre sur les grands leviers d'orientation de l'économie du pays. Mais c'est ce qui a été,
abandonné.
Abandonné depuis déjà très longtemps, depuis 1983.
Vous aviez imaginé le scénario qui s'est produit, c'est-à-dire Jean-Marie Le Pen, président du Front National.
Mais personne ne l'avait imaginé. Ouais. Personne. Et moi non plus. Mais c'est vraiment le grain de sable. Hein, et puis ça s'est joué à rien. Hein, je le rappelle, l'écart est de 100 000 voix. Et il y a 13 plus. Millions... d'abstention. Et puis il faut compter, additionner toutes les voix des partis extrêmes et des partis alternatifs, parce que je considère que moi, mon parti était un parti alternatif. Si je prends le Parti Socialiste et le RPR ou l'UMP, ensemble, en 2002, il faut encore 36% des voix. C'est pas beaucoup, c'est au premier fait. Tour. Mais regardez ce qu'ils font en 2017, c'est 6 plus 20, 26%, 10 points de moins. Et par contre, les partis alternatifs et les abstentions se sont énormément développés. Donc, ce qui est en cause, c'est l'orientation politique générale, commune à la fois à la droite et à la gauche pour l'essentiel, conforme aux traités européens qui ont été signés, l'acte unique, la dérégulation généralisée en 1987, et puis la monnaie unique qui a débouché sur une longue stagnation du fait de la politique allemande, de l'ordo-libéralisme allemand et des règles que Mme Merkel a imposées au pays, qui traînait la patte, comme la Grèce, qui a été le moment le plus emblématique.
Font la performance, si je puis dire, d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir dépassé cette alliance objective ou cette entre la droite et la gauche sur les questions de fond, et d'avoir proposé une alternative.
Alors, il l'a proposé à travers le titre de son petit livre, Révolution. Révolution. Mais a-t-il réellement proposé une alternative? Parce qu'il ne suffit pas de dire en même temps je suis de droite et de gauche. A-t-il réellement proposé une alternative à la politique néolibérale? N'a-t-il pas plutôt proposé une politique d'adaptation de la France à ce qu'est le néolibéralisme? Alors, il se rend compte d'une chose, c'est que l'Allemagne n'a pas renvoyé l'ascenseur, que le néolibéralisme a du plomb dans l'aile partout, que tous les pays sont malades, tous sont frappés, comme dans les animaux malades de la peste, que ce soit la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, etc. Donc il se rend compte qu'il faut trouver autre chose. Alors va-t-il le trouver? Moi je le souhaite. Je le souhaite. Parce que ce sera meilleur pour la France et que j'aime mon pays. Mais je ne suis pas sûr qu'il y parvienne. Parce qu'il est prisonnier d'une base sociale qui reste beaucoup trop étroite. Et les couches populaires se sont détournées. Ce n'était pas le cas au départ. Bon, je le vois même dans ma famille. Beaucoup ont voté Macron. Mais je sens qu'il y a des couches à reconquérir. Et puis il y a les jeunes générations qu'il faut attirer. Alors c'est un vrai travail d'ingénierie politique.
au fond, sa faiblesse actuelle, sa force a été de faire imploser ce système d'alternance ou d'essuie-glace entre la droite et la gauche, mais sa faiblesse, c'est d'être très isolé par rapport à une société de plus en plus, comment dire, éruptive.
Et puis par rapport à la classe politique, évidemment, il a ruiné bien des carrières, à droite et à gauche. Hein, donc il ne peut pas...
Ça ne crée pas beaucoup d'amis.
Ça ne crée pas beaucoup d'amis. Mais en même temps, il a montré un réel talent, il est intelligent, il habite sa fonction.
Il vous a bluffé ?
Ah, j'ai trouvé qu'il était... Enfin, qu'il était assez fort, oui. Ouais. Hein. Évidemment, il n'a pas mon expérience, parce que moi je suis maintenant un vieux bonhomme, mais... C'est un homme qui est capable de corriger ses erreurs. Il a fait des erreurs au départ. Il a su les corriger. Est-ce qu'il sera capable de s'extraire en quelque sorte de la gangue dont il est prisonnier, malgré tout? Ça, je ne sais pas. Mais je vois en politique étrangère le mouvement qu'il a plus qu'esquissé sur la Russie est remarquable. Qui aurait été capable de faire ça?
Il se dit que vous lui avez prodigué des conseils ou des analyses, en tout cas, sur ce genre de sujet.
Sur ce sujet, oui, nous avons même fait un voyage ensemble en 2016, il n'était pas encore président, à l'occasion d'un CEFIC, à un voyage Paris-Moscou, donc nous avons eu l'occasion de beaucoup parler de la Russie, et il s'en est souvenu puisqu'il m'a demandé tout de suite de reprendre mes fonctions de représentant spécial que j'avais laissé un peu tomber parce que la politique de Hollande n'était pas vraiment la mienne.
Alors, justement, je voulais voir, parce que entre 2002 et 2017, donc, vous avez créé la Fondation Respublica, une sorte de, j'allais dire, une sorte de remake républicain du CERES. Le CERES, c'était l'éducation socialiste et Respublica, c'est l'éducation républicaine. Mais vous avez prodigué vos conseils, ou vos, je crois, à pratiquement tous les présidents successifs, voire à des candidats, ou des candidates, comme Ségolène Royal. Est-ce que vous avez été entendu par l'un ou
alors,
par l'autre?
Alors, prodigué, oui, mais si j'ai été entendu, faiblement. Je suis allé voir Jacques Chirac dès le mois de septembre 2002 pour lui parler de l'Irak. Mais il en savait autant que moi. Mais il y a eu un vrai exercice de mise en commun de ce que nous pensions et de ce qu'il fallait faire. Et je suis reconnaissant à Jacques Chirac d'avoir... maintenu la France hors de cette seconde guerre du Golfe. Je pense qu'il y avait une logique chez Jacques Chirac que je n'ai pas retrouvée chez ses prédécesseurs. Bien que j'ai eu un dialogue...
Chez ses successeurs,
vous voulez dire. Chez ses successeurs. Mmh. J'ai eu un dialogue très intéressant avec Nicolas Sarkozy sur le rôle de la Banque centrale. Mmh. Et je me souviens de coups de téléphone échangés, j'étais en vacances, au moment où la Banque centrale n'avait pas encore décidé d'acheter des titres publics de la dette.
Avec François Hollande ou Ségolène Royal, les relations... Enfin, avec Ségolène Royal, vous avez contribué ou participé à
Ségolène,
ça.
Oui, oui, nous avons même passé un accord politique. Oui. Mais devant l'hostilité du PSE, Parti Socialiste Européen, à étoffer les statuts de la Banque Centrale Européenne, j'ai été quand même assez déçu du résultat, je le dis après coup. Bien que j'ai beaucoup de sympathie pour Ségolène et pour son courage, sa détermination... Disons que le Parti Socialiste avait été fracturé par le choix européen, puisque Fabius était pour le non au référendum de 2005, hein, et Hollande et Strauss-Kahn étaient pour le oui. Si Fabius s'était affranchi des contraintes partidaires, il aurait pu faire quelque chose. Il ne l'a pas fait. Bon, je n'en suis pas responsable. Maintenant... honnêtement, les conseils que j'ai donnés à Hollande ont été rarement suivis d'effet. J'ai un peu contribué à la mise sur pied du format Normandie. Mais, voyez-vous, je ne tire pas gloire du rôle que je joue comme conseiller, parce que les conseillers ne sont pas les payeurs, comme disait un de mes amis. Par contre, je pense avoir contribué à républicaniser la gauche et la vie politique française dans des domaines aussi différents que la défense. J'ai rallié le Parti Socialiste, pas seul, mais avec, j'ai pesé d'un poids déterminant à la dissuasion nucléaire, en 1978, dans le domaine de la sécurité, de la police, de l'immigration, conditionné par une bonne intégration. Je pense que j'ai fait avancer un certain nombre d'idées qui ont marqué et qui représentent un acquis durable. J'ai engagé une politique vis-à-vis de l'islam en 1997-99, la consultation que j'ai lancée, mais avec toutes les péripéties que vous savez et des résultats très insatisfaisants. Mais j'ai ensuite présidé la Fondation de l'Islam de France. Mon successeur est un citoyen français remarquable, Khaled Benchir, et j'admire beaucoup ce qu'il fait. Et je pense que c'est dans cette voie-là qu'il faut aller pour apporter à la société française les solutions dont elle a besoin. Disons qu'il y a des défis qu'il faut être capable de relever. Nous sommes dans un monde dangereux. Il y a un arc de crise au sud qui va du Sénégal jusqu'à l'Indonésie. Je pense que la réponse, c'est la grande Europe, de l'Atlantique au Pacifique, avec la Russie. C'est comme ça seulement que nous pourrons peser entre, d'une part, les États-Unis et d'autre part, la Chine. Les États-Unis, quand même, je ne les mets pas sur le même pied, ce sont nos alliés. Mais l'extraterritorialité du droit américain, c'est inacceptable. Et puis la Chine, où va-t-elle ?
Vous avez déjà, là, vous venez d'aborder au fond un peu le bilan de ces longues années. Deux ou trois questions là-dessus. Est-ce que pour vous, la gauche est encore, a encore un avenir, a encore un sens ? Est-ce que c'est une force qui se projette dans l'avenir ou pas ?
Alors, je vais vous répondre très franchement. Tout mon parcours vient de la gauche, bien entendu. Je ne le renie pas du tout. Mais en même temps, la gauche et la droite ne sont pas des catégories a priori de la perception politique. Comme pourrait le dire un Emmanuel Kant de la politologie. Je pense qu'il y a un autre clivage qui est la mondialisation financière, telle qu'elle se déroule, telle qu'elle exerce ses ravages, dont on voit les dégâts. Et je pense que savoir s'y opposer intelligemment est un choix fondamental qui peut venir à l'esprit d'hommes de droite comme d'hommes de gauche. Donc pour moi, il y a un autre clivage qui se superpose à l'ancien, qui pour moi reste présent parce que je suis toujours indigné par l'injustice, qu'elle soit l'injustice sociale ou l'injustice dans les relations internationales. Quand je vois écraser l'Irak et le pauvre peuple irakien, ou les peuples syriens, ou les Algériens, etc., comment ne pas souffrir, alors qu'on aurait pu éviter tout cela, que ce sont des choix politiques ineptes qui conduisent à ces situations.
Mais est-ce qu'au fond, ce cycle néolibéral qui a commencé au début des années 80, est-ce qu'il n'est pas à son terme, là, d'une certaine manière ?
C'est ce que beaucoup de gens pressentent, et que moi aussi je pressens, mais pour qu'il aille vraiment à son terme, il faudra reconstruire des cadres politiques qui permettent de faire aller du même pas le progrès économique et le progrès social. Je pense que la dérégulation générale de l'économie a abouti à lézarder la société, à l'archipélisation, comme dit Monsieur Fourquet, de la société française, avec des gens qui sont côte à côte, mais qui s'éloignent les uns des autres. Donc il faut resserrer tout cela, faire un travail de cohésion. Et il me semble que l'idée républicaine, qui a beaucoup souffert, est en même temps ce qui nous permet de remonter le courant. Et il me semble que dans mon parcours, depuis les origines, depuis le CRS, et particulièrement avec République moderne, la gauche au pouvoir et les ministères que j'ai exercés, il y a quand même un fil rouge qui passe aussi par 2002, au-dessus de la droite et de la gauche. Il y a la République, telle qu'elles sont devenues, il y a la République. Et je pense que cette interpellation-là, elle s'adresse aujourd'hui à Emmanuel Macron ou à d'autres, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais c'est toujours la grande question. Est-ce que nous saurons refonder le pacte républicain ?
Il y a un autre fil rouge, à mon sens, dans tout ce parcours d'un demi-siècle, c'est le rapport à l'histoire. Je voudrais, pour finir, raconter ou rappeler, vous la connaissez par cœur, cette scène, qui se produit le 18 juin 1997. Un 18 juin, beau clin d'œil. C'est le deuxième conseil des ministres du gouvernement Jospin. La veille a eu lieu un sommet européen à Amsterdam, si j'ai bonne mémoire. Il en est fait compte rendu au conseil des ministres. Les uns et les autres prennent la parole et puis vous intervenez et vous faites un réquisitoire absolument cinglant de la politique européenne de la France depuis 15 ans. Devant Jacques Chirac.
Mais je suis même tourné vers Jacques Chirac comme si je m'adressais à lui,
voilà.
Parce que je ne veux pas avoir l'air de m'adresser à Lionel Jospin.
Et à la fin de cette diatribe, ou de ce réquisitoire, réquisitoire. Vous vous tournez vers le secrétaire général du gouvernement qui assiste muet à ces conseils et vous lui dites, je vous cite parce que je trouve ça formidable, je sais que les comptes rendus du Conseil des ministres sont couverts par le secret pendant 30 ans, mais je veux que vous y mentionniez mon intervention. Quand les historiens pourront y accéder, ils remarqueront qu'un ministre avait dénoncé les conséquences du pacte de stabilité monétaire. Ce rapport à l'histoire, au fond, est-ce que vos idées ont fait avancer l'histoire, et ou bien l'histoire vous a-t-elle déçu au bout du compte?
L'histoire ne m'a pas déçu parce qu'elle est longue. Comme me disait un de mes amis, aujourd'hui décédé, Didier Motchan, 10 ans dans la vie d'un homme, c'est beaucoup. Mais dans la vie de la nation, ce n'est rien du tout. Hein? Et par conséquent, je me suis toujours placé dans cette perspective. Et même si, à certains moments, ça avait un côté un peu sacrificiel, parce qu'on ne quitte pas un gouvernement de gaieté de cœur. Je ne l'ai jamais fait de gaieté de cœur. Et puis il y a des moments où vous vous sentez très seul. Imaginez un peu ce qu'était mon état d'esprit après que j'ai brisé mon sabre de ministre de la Défense à la fin du mois de janvier 1991. Donc je me sentais très seul, parce que très peu compris. Mais je pensais qu'un jour, on me comprendrait. Par conséquent, ça en valait la peine. Et en 2002, c'était très difficile, parce que fallait-il y aller, fallait-il ne pas y aller. J'ai choisi d'y aller pour montrer qu'il y avait encore une brèche, une lueur dans le ciel. Sinon, il n'y avait plus qu'à replier les voiles. Donc je pense que le rapport à l'histoire, c'est le rapport à quelque chose qui nous dépasse. On peut dire que c'est la France, c'est le patriotisme républicain. Naturellement, je suis un grand admirateur de la Révolution française. Je pense qu'elle a posé des principes qui valent toujours aujourd'hui. Mais ils viennent de loin dans notre histoire. La France n'a pas fait la Révolution par hasard. C'est parce que la nation française était mûre. Donc je me sens responsable de mon comportement vis-à-vis des générations qui viennent. Peut-être que c'était complètement idiot comme attitude. Tout le monde va oublier tout ça.
Jean-Pierre Chevènement, il me reste, ou il nous reste, à vous remercier d'avoir témoigné pour France Culture et pour l'histoire.
Merci.
Cette rencontre de Gérard Courtois avec Jean-Pierre Chevènement. À voix nue, réalisation Marie Placet, prise de son Martin Troadec, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et se podcast sur franceculture.fr.